Monsieur Rabbi nous accueillir dans cette, dans ce lieu pour cette première conférence d'un cycle qui a été mis en place, organisé cette année dans le cadre du projet de l'établissement. Mais je pense que nos collaborateurs vont en dire deux mots très rapidement. Je voudrais tout de suite remercier la présence parmi nous de Monsieur Yves Michaud, professeur d'université, philosophe, chercheur. Donc, certains parmi vous ont déjà pu voir les ouvrages au CDI ou dans leur cours. Et donc, nous sommes très honorés de la présence de M. Buchaud parmi nous ce soir.
Bonjour. Alors, je voudrais d'abord, au nom de tous les élèves et de tous les personnels du lycée Rico, remercier Yves Michaud d'être là aujourd'hui. Donc, comme on l'a répété, Yves Michaud est un enseignant à l'Université de Rouen. Il est membre de l'Institut, donc une institution qui regroupe les grands esprits français. Il est l'organisateur et le concepteur de l'Université de tous les savoirs. Il anime, il participe à l'animation d'une émission sur France Culture le dimanche matin à 11h, Esprit public, que je vous conseille. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont deux ouvrages qui s'appellent La philo 100% ado, que je vous conseille, qui est une très très bonne introduction à la philo, qui s'adresse à tous. Donc voilà. Alors, j'aimerais très rapidement vous expliquer le pourquoi de cette conférence et essayer de vous expliquer qu'il ne s'agit pas d'une conférence pour une conférence. Alors, l'équipe, les enseignants du lycée ont décidé de monter un projet pédagogique d'établissement dans le but de permettre à tous les élèves de réussir leur scolarité et surtout d'avoir des armes pour réussir leur vie professionnelle et surtout réussir leur vie tout court. Et cette année, les premiers qui bénéficient de ce projet d'établissement sont les élèves de seconde. Alors, je vais m'adresser plus particulièrement aux élèves de seconde pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste ce projet. Alors, pour construire ce projet, nous sommes partis de l'étude d'un animal exotique et bizarre, l'élève de seconde. Et en observant l'élève de seconde, nous avons constaté que les élèves qui arrivent au lycée Rive Gauche au début de l'année forment une population très diversifiée, c'est l'objet de la conférence, très hétérogène et porteur de multiples différences. Or, ces différences font que, eh bien, par la suite, certains élèves vont réussir facilement et d'autres auront plus de difficultés dans leur scolarité. Et donc, nous allons chercher à comprendre finalement le pourquoi. Pourquoi ces différences peuvent avoir un impact sur la réussite scolaire de nos élèves. Et comment faire que ces différences ne soient pas un handicap pour nos élèves. À partir de là, nous avons fait une hypothèse. Il y a plusieurs explications à cette diversité dans les résultats. Et nous avons choisi de faire l'hypothèse que la différence qui nous semblait la plus décisive dans la réussite scolaire, je ne parle pas d'échec scolaire, je parle de la réussite scolaire, c'est l'accès au savoir et à la culture. Nous avons fait l'hypothèse que tous, vous n'avez pas accès de la même façon au savoir et à la culture, savoir et culture qui vous sont nécessaires ensuite pour réussir, réussir dans vos études, réussir dans votre vie. Et donc, nous avons décidé de mettre à la portée de tous les élèves, quelle que soit leur histoire personnelle, eh bien, ce savoir et cette culture. Alors, pour mettre à la portée de tous les élèves le savoir et la culture, eh bien, les enseignants ont mis en œuvre un certain nombre de dispositions. L'une des dispositions, par exemple, c'est l'accompagnement des élèves. Pour apprendre et pour désirer apprendre, il faut que vous ayez confiance en vous, confiance en vos capacités. Et pour avoir confiance en vos capacités, pour que vous soyez certain que vous pouvez réussir, eh bien, il faut que vous bénéficiez de la reconnaissance et de l'écoute d'autrui, de l'écoute des autres acteurs de la communauté scolaire. C'est pour ça que cette année, certains élèves qui en éprouvent le besoin, donc, ont un tuteur qui leur sert d'interlocuteur privilégié pour discuter de leurs difficultés, pour répondre finalement aux problèmes qu'ils rencontrent au cours de leur scolarité. Autre moyen mis en œuvre, eh bien, pour avoir accès au savoir et à la culture, ce savoir et la culture, il faut le rencontrer. Et ce n'est pas toujours facile dans notre société. Donc c'est pour ça que nous avons décidé, non pas de vous emmener à la rencontre du savoir et de la culture, mais nous avons essayé de faire que le savoir et la culture viennent dans votre lycée, viennent habiter votre lycée. Le lycée, ce soit vraiment un lieu de vie, un lieu de réflexion dans lequel vous êtes les acteurs privilégiés. Donc j'espère que M. Michaud vous démontrera que la culture, c'est à la portée de tous, et que la culture, le savoir, la philosophie, on peut y prendre plaisir. C'est pour ça qu'il est très important que cette première conférence s'ouvre avec la participation d'un philosophe, et notamment Yves Michaud, qui est une œuvre pleine de vitalité, et surtout qui, dans son travail, a un engagement personnel, un engagement militant à l'égard du savoir, donc dans l'université de tous les savoirs, qui s'adresse à tous les publics, et pas nécessairement à un public savant et érudit, Yves Michaud veut montrer que ce savoir, cette culture, cette philosophie, qui nous permet finalement de comprendre le monde dans lequel nous vivons, et qui nous permet de nous comprendre, eh bien, il est accessible à tous. Et c'est ce qu'il va nous démontrer tout de suite. Voilà, je vous laisse la parole.
Bien, merci beaucoup pour toutes ces bonnes introductions. Et je vais vous poser une question. Donc, les secondes qui lèvent la main, je vois un petit peu qui sont les secondes ici. Hein, bon, les cardinales, là, quelques-uns, il y a beaucoup aussi. Et entre les deux, les premières, et là, aussi. Bon, donc, alors, tout à l'heure, on disait que j'avais écrit des bouquins de la philo 100% ado, dans deux volumes. Un qui était le premier, la philo 100% ado, et l'autre qui s'appelle simplement. Oui. Et l'autre qui s'appelait la philo 100% ado, la suite. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour faire de la publicité, c'est que simplement, bon, puisqu'il y a des secondes ici, j'ai fait ces séries de dialogues philosophiques avec. Alors, je vous parlais de ce livre tout simplement parce que pour les secondes qui sont ici, ils ne sont pas très loin de moi puisque j'ai fait ces entretiens. Il y a 16 dialogues dans chacun des livres. Je les ai faits avec des vrais collégiens, donc ce que vous étiez l'an dernier pour les secondes, avec des 5e, 4e et 3e. Et j'ai fait ça pendant 4 ans dans un vrai collège de la banlieue parisienne. Donc je peux dire que d'une certaine manière, je vous connais un petit peu, même si vous changez assez vite. Et si le temps ne cesse de changer. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la diversité humaine, de la diversité de la vie aussi. Je vais essayer d'être à la portée de tout le monde, mais comme je vais me concentrer surtout sur une réflexion, on dirait, de philosophique, beaucoup plus que sur des apports strictement scientifiques, je pense que ces interrogations et ces réflexions philosophiques concernent tout le monde, depuis les gens de seconde jusqu'aux gens de terminale, parce que l'expérience que j'ai eue lorsque je faisais ces expériences et ces dialogues avec les collégiens, c'est que la réflexion philosophique, d'une certaine manière, n'a pas d'âge à partir de, disons, de 12-13 ans, et l'équipement intellectuel des gens très jeunes, comme celui des terminales, je dirais, est tout à fait suffisant pour la réflexion. Alors, je vais vous parler de la diversité, et je commencerai par quelques mots d'introduction sur notre ambivalence, notre attitude extrêmement partagée vis-à-vis de la diversité. Parce que d'un certain point de vue, la diversité, elle nous plaît beaucoup, spontanément, au sens où elle stimule notre curiosité, elle nous attire, elle nous charme, elle nous captive. Je crois qu'elle est vraiment à la base de la curiosité, de tous les comportements de curiosité. Aller voir quelque chose de différent, quelque chose qui n'est pas pareil, quelque chose qui est bizarre, qui est étrange. Et on trouve ça à la base, par exemple, de l'amour du voyage, de l'amour de la découverte, l'intérêt pour les rencontres, la recherche de l'exotisme aussi. Du pittoresque, de ce qui nous sort de l'ordinaire. Donc il y a vraiment chez l'animal humain,
effectivement, clairement, le mot animal humain, il y a un goût pour la variété, la diversité et la différence. Aujourd'hui, par exemple, je pense que vous qui êtes très férus de mode, vous savez sûrement qu'il y a une mode, par exemple, ethnique aujourd'hui, une mode de la mode ethnique. Et elle correspond à ce goût que nous avons pour l'exotisme, le voyage, ce qui est différent, ce qui n'est pas pareil. C'est un début de stimulation de la réflexion. Donc il y a un plaisir, à la diversité, un plaisir à la variété. Et d'ailleurs, ce qui caractérise l'homme préhistorique, très curieusement, c'est que on identifie, si vous voulez, l'Homo sapiens à travers, d'une part, ses productions artistiques, mais aussi le fait que dans les tombes, on trouve ce que les préhistoriens appellent des curios. Ce qu'on appelle des curios, c'est des petits objets bizarres, aux formes bizarres, des pierres aux formes bizarres, des billes, des choses qui ne sont pas courantes dans la nature. Et curios, ça renvoie au terme curiosité. Les premières collections sont des collections de curios. Et l'homme, spontanément, s'intéresse, très naturellement, je dirais plutôt, s'intéresse à cette diversité, à cette curiosité, à cette différence qui l'attire. Mais en même temps, c'est pour ça que je disais que notre attitude est partagée, ce qui est différent, ça nous inquiète et ça nous fait peur. Ça nous attire d'un côté, comme j'ai dit dans un premier temps, mais aussi ça nous inquiète et ça nous fait peur. Ça déclenche des réactions de défense. Et souvent de réaction d'agression, soit la fuite face à ce qui est différent, soit tout simplement réaction plus directement, des réactions d'agression et des réactions destructives. Et donc, la diversité nous fait toujours balancer entre la fascination et l'inquiétude, l'attraction, l'attirance et la peur. L'attraction et l'inquiétude, l'attirance et la peur. La curiosité et je dirais l'agressivité. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, ça se reflète assez bien dans nos attitudes. Des gens de notre société. Nous avons un grand amour de la variété, de la diversité. Nous, par exemple, nous faisons l'éloge de la diversité des langues en disant il y a 5000, 6000 langues humaines. Et une langue disparaît quasiment chaque jour, par exemple. Donc on déplore, de la même manière, on déplore les atteintes à la biodiversité, en disant le nombre des espèces naturelles diminue, des espèces sont en danger, des espèces sont en voie d'extinction. Vous en entendez parler tout le temps. Il y a un retour aux langues régionales. Mais en même temps, il y a à l'évidence des manifestations de rejet très violents de l'étranger, de ce qui est autre, de ce qui n'est pas comme nous. Et je vous signale que cette ambivalence, comme on dit en philosophie, on parle d'ambivalence, donc on dit qu'un sentiment est partagé entre du positif et du négatif, que ça peut être de l'amour ou ça peut être de la haine, on appelle ça ambivalence à ce moment-là. Je dirais que cette ambivalence, elle n'est pas nouvelle. Et par exemple, au 19e siècle, c'est une question que j'ai étudiée dans le temps, au 19e siècle, les gens très éclairés, même des grands scientifiques, des gens parfaitement de bons citoyens et des humanistes, étaient extrêmement opposés à la diversité des langues, par exemple, au 19e siècle. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient dans la diversité des langues une source de guerre, une source d'affrontement. C'était la différence qui faisait les affrontements entre les hommes, c'était la diversité des langues qui était une des sources de l'agression entre les hommes et donc des conflits. Et c'est pour ça, peut-être pour vous ça ne dit plus grand-chose, mais c'est que c'est quand même resté très vivace jusqu'à il y a peu de temps, c'est pour cela qu'un certain nombre de grands savants au 19e siècle ont essayé d'inventer des langues universelles. Vous avez peut-être entendu parler de l'espéranto. L'espéranto, c'était une construction artificielle, une langue artificielle construite à partir de plusieurs langues européennes, en essayant et puis des langues classiques aussi, des langues mortes, essayant de trouver une langue la plus rationnelle possible qui pourrait être parlée par tous les hommes. Et jusqu'à encore il y a peu, il doit y en avoir encore d'ailleurs, il y avait pratiquement dans toutes les villes de France, il y avait des cercles, des associations de promotion de l'espéranto où on essayait d'apprendre ces langues qui auraient, disons, un peu mis fin à la diversité et au risque d'agression qu'il y a dans la diversité entre les hommes. Et les gens qui étaient à l'origine de ces constructions, ce n'étaient pas du tout des politiciens totalitaires, ce n'étaient pas du tout des gens mal intentionnés, c'était très souvent des grands savants, des spécialistes de mathématiques, des spécialistes de logique, qui disaient un des remèdes possibles aux guerres, c'est l'établissement d'une langue universelle. Pour nous, aujourd'hui, ça paraît monstrueux, et en plus, le fait est, c'est que des langues universelles, qu'on le veuille ou non, il y en a, et qui sont en train de se mettre en place. Il y a l'anglais, bien sûr, il y a l'espagnol aussi, peut-être un jour il y aura d'autres langues qui serviront de langue universelle, mais bien, au XIXe siècle, on voulait bien lutter contre l'excès de diversité par l'invention de ces langues universelles. Une autre chose qui est assez exemplaire, qui est de cette ambivalence, comme j'ai dit, c'est l'attitude vis-à-vis de l'étranger. Aujourd'hui, bon, vous savez, vous connaissez les problèmes d'immigration, les problèmes aussi des extrémismes d'extrême droite en Europe, par exemple, les campagnes anti-immigration, anti-étranger. Mais pratiquement dans toute la culture humaine, l'attitude vis-à-vis de l'étranger est une attitude, là encore, très ambivalente. L'étranger, ou bien on l'accueille, c'est les voies d'hospitalité. L'étranger doit être accueilli, l'étranger qui est égaré, ou qui est en déplacement, ou qui est en voyage, doit être absolument accueilli et protégé pendant le temps où il reste. C'est l'histoire de Ulysse dans ses pérégrinations, comme naufragé autour de la Méditerranée. Chaque fois qu'il arrive quelque part, il est accueilli comme un pauvre hôte et il doit être préservé. Mais en même temps, l'autre tradition, l'autre attitude des étrangers, c'est on le tue. Hein, on l'accueille, on le tue. C'est une sorte de proie. Hein, il y a double attitude tout le temps vis-à-vis de l'étranger dans la pensée européenne en tout cas, mais aussi dans beaucoup d'autres pensées. L'étranger, c'est celui qui n'est pas comme nous. Et donc, d'une certaine manière, il faut que nous l'accueillions. En même temps, celui qui n'est pas comme nous, c'est une menace, c'est un danger, et il faut le tuer. Et donc, il y a une sorte de xénophobie naturelle dans l'être humain, dans ce rapport à la différence, à l'autrui, à l'altérité. Mais en même temps, il y a ce qu'on pourrait appeler, c'est un peu prétentieux, une xénophilie, c'est-à-dire l'étranger, c'est celui qui nous apporte quelque chose d'ailleurs et qui nous intéresse pour cela. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous devez vivre d'ailleurs dans votre propre vie. Aujourd'hui, nous sommes toujours très mélangés, très partagés dans cette relation à la diversité, parce que d'une part, nous faisons l'éloge de la diversité considérablement, nous essayons d'être chacun d'entre nous unique et nous voulons reconnaître les droits de tout un chacun à être unique. Et en même temps, vous en rendez compte sûrement, nous avons un grand désir de conformisme, c'est-à-dire de nous fondre dans la masse, de nous fondre dans le groupe, de nous fondre dans d'être comme les autres, à la fois être différent et être comme les autres. Ben, c'est tout le problème de la diversité aujourd'hui. Encore une fois, les groupes humains, ça va être le sujet dont je vous parlerai plus, mais les groupes humains ont toujours eu à gérer cette sorte d'attitude ambiguë vis-à-vis de la diversité, quelquefois en la niant, purement et simplement, et d'autres fois en essayant de l'accueillir. Je donne un autre exemple qui vous étonnera peut-être, mais l'idée que nous sommes chacun des individus uniques, c'est une idée qui est très récente. Et on en a une illustration, c'est que la signature, vous avez tous une signature, on vous demande de signer des choses, vous signez des contrats, vous signez des engagements, vous signez votre présence. La signature, en Europe, c'est quelque chose qui est très récent. La signature commence à exister à partir du 14e, 15e siècle. Jusqu'ici, les gens n'ont pas de signature, bon, ils sont souvent illettrés, mais ils ne sont pas des individus. Ils ne sont pas des individus. Ils sont de leur pays, de leur village, de leur profession, sont de leur groupe. Donc, ils sont fondus dans ce groupe et c'est n'est pas conseillé de se dissocier du groupe et de se singulariser. La singularité que nous connaissons et que nous valorisons est quelque chose d'assez récent dans nos sociétés, encore une fois, 14e, 15e siècle, les premières inventions de signature, de la même manière que c'est les premières inventions de noms propres. Hein, jusqu'ici, vous avez des noms de famille, vous avez des noms de groupe. Hein, le Picard, Brigard, celui qui est de la Brie, le Picard, celui qui est de Picardie, hein, je veux dire Savoyard. On est identifié par son groupe, ou par son village, ou par sa profession. Et l'individualisation, l'apparition de l'être humain unique est quelque chose de relativement récent. Alors, après ces quelques mots d'introduction, ce que je vais vous parler, c'est premièrement de la diversité de la vie, je parle un peu de la diversité de la vie, ensuite de la diversité humaine, et troisièmement, je vous parlerai de la gestion de la diversité. Comment on s'y prend de la diversité? Vous allez voir à quel point c'est joliment compliqué. Alors, je ne suis pas le biologiste et je ne suis pas le professeur de biologie ou de sciences de la vie et de la terre, mais le processus vivant, c'est un immense bricolage de la diversité. C'est-à-dire que les êtres vivants se renouvellent et survivent à travers des mutations continuelles, des mutations notamment qui se retrouvent dans l'ADN, le fameux ADN ainsi que des oxyribonucléides, le génome des êtres vivants, le génome qui est plus ou moins compliqué selon les espèces, mais l'évolution de la vie, tout au long de milliards d'années, c'est d'un processus de mutation de ces génomes, avec des mutations réussies, des mutations qui échouent et donc qui condamnent à la mort les individus qui portent ces mutations ou les espèces qui regroupent tous ces individus, avec donc un critère de sanction par la réussite dans le processus d'adaptation au milieu et dans le processus de l'évolution. Alors, tout ce processus donne la diversité des espèces, cette fameuse biodiversité, et puis cette biodiversité qui subit un processus continuel d'invention, d'innovation et en même temps d'adaptation et avec des réussites, encore une fois, et des échecs. À l'intérieur des espèces, il y a bien évidemment aussi des différences individuelles. Alors, la diversité de la vie est gigantesque, il suffit que vous regardiez un manuel de sciences du vivant, un manuel de zoologie, vous verrez, et surtout, cette diversité du vivant, elle a été extrêmement variable selon les époques de l'humanité, extrêmement variable, c'est-à-dire qu'il y a eu des périodes de fantastique élargissement de la biodiversité, et puis des périodes de diminution considérable, et même quasiment d'anéantissement de la biodiversité. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est un des problèmes induits par le développement de l'humanité, c'est des menaces sur la biodiversité, et il y a eu d'autres époques de menaces sur la biodiversité, à cause notamment de phénomènes naturels, que ce soit des impacts de météorites, ou que ce soit des éruptions volcaniques, des révolutions géologiques importantes, qui ont réduit considérablement la biodiversité. Donc, une très grande diversité de la vie, qui caractérise la vie, c'est la diversité avec, je dirais, toutes les sortes d'inventions possibles. Quand on regarde véritablement les classifications naturelles, et classifications naturelles dont on sait qu'elles ne sont pas complètes, on découvre sans cesse aussi des espèces nouvelles, par exemple des animaux qui vivent à des très grandes profondeurs dans les océans, dans des conditions qui paraissaient absolument impropres à la vie, encore il y a peu. Quand on regarde cette biodiversité, elle est énorme, et la vie, sans que ce soit une invention intellectuelle, la vie a inventé un nombre de solutions d'adaptation, d'innovation en fonction des milieux absolument considérables, et je pense qu'elle continuera aussi à le faire, y compris après peut-être probablement la disparition de l'homme. J'en dirai pas plus sur la diversité du vivant. J'en dis quelques mots maintenant de la diversité humaine. Alors, ce qui est très frappant sur la diversité humaine, c'est que actuellement, depuis en gros, je dirais, on ne sait pas si c'est 50 000, 30 000 ans depuis l'apparition de l'Homo sapiens sapiens, depuis que nous ne sommes plus en compétition avec un autre Homo qui était l'homme de Néandertal. Apparemment, il n'y a plus d'évolution de l'homme avec apparition de nouvelles espèces. C'est-à-dire que nous sommes tous des Homo sapiens, nous sommes des Homo sapiens sapiens, avec nos capacités cérébrales, nos capacités mentales, notre patrimoine génétique, nos 30 000 gènes, etc. Nous sommes tous, il n'y a plus d'évolution pour le moment, je dis bien, il n'y a plus d'évolution qui verrait apparaître de nouvelles espèces humaines, des nouveaux humanoïdes par exemple, sauf dans la science-fiction. Si vous vous intéressez à la science-fiction, vous verrez que dans la science-fiction, un certain nombre d'auteurs de science-fiction ont imaginé l'apparition de nouveaux humanoïdes qui seraient comme des hommes, vivant avec les hommes, mais qui ne feraient pas partie de l'espèce humaine. De ce côté-là, j'ai une recommandation de lecture à faire, et puis voir un film, mais le livre est bien meilleur que le film, c'est de lire le livre de Philippe Dick, D-I-C-K, c'est Blade Runner, et voir le film Blade Runner. Parce que le film Blade Runner, c'est l'histoire, justement, d'une guerre, d'une rivalité extrêmement violente entre les derniers humains qui sont sur Terre et l'apparition de nouveaux humanoïdes qui sont des êtres humains artificiels, quasiment irreconnaissable par rapport à ces êtres humains. On peut imaginer, par exemple, il faut prendre ça de très tôt, on peut imaginer que sous des formes qu'on appelle souvent le cyborg, je ne sais pas ceux qui sont accros à Internet et aux jeux vidéo le savent, mais on peut imaginer l'apparition, par exemple, d'androïdes artificiels qui constituerait une sorte de nouvelle espèce, qui pourrait se reproduire entre eux, mais qui ne se reproduirait pas avec les êtres humains, ou en tout cas dans la reproduction des êtres humains, conformément à la définition de l'espèce, il donnerait des rejetons qui seraient stériles. On peut imaginer que les progrès de la génétique aidant, les progrès de la robotique aidant, apparaissent un jour, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait sans ce savant fou pour le faire, apparaissent une autre espèce au milieu des êtres humains, proche des êtres humains, des humanoïdes. Toujours est-il qu'on n'en est pas là, pour le moment, Dieu merci, on n'en est pas là, et la diversité est une diversité seulement ce qu'on appelle intraspécifique, c'est-à-dire c'est à l'intérieur de l'espèce humaine qu'il y a de la diversité. L'évolution, nous avons réussi, est-ce bien, est-ce mal, nous avons réussi à stopper l'évolution. C'est-à-dire que l'homme contrôle son existence par rapport à son milieu jusqu'à un certain point. Pensons à la crise écologique, mais ça, on en parlera peut-être pendant les échanges. Mais l'homme contrôle sa relation au milieu et d'une certaine manière, il n'évolue plus en tant qu'espèce. Ce qui se produit, en revanche, c'est que les différences intraspécifiques, c'est-à-dire les différences entre les hommes qui sont tous des hommes au même titre, les différences entre les hommes, elles continuent bien évidemment à exister. Alors comment est-ce que les hommes ont réussi à contrôler l'évolution? Pour le moment, je dis bien pour le moment, parce qu'il se peut qu'un de ces jours, on se retrouve dans des situations littéralement catastrophiques. Eh bien, d'une part, en contrôlant relativement bien les conditions du milieu extérieur, par la technique, par l'habitat, par le vêtement, par la culture, c'est-à-dire que nous avons en partie stabiliser notre relation au milieu. Ce qui apparaît avec la crise écologique, ce qui apparaît à l'horizon, c'est le risque de déstabilisation de notre relation au milieu. Auquel cas, il se pourrait que le processus d'évolution puisse réapparaître. Et puis d'autre part, en interne, à l'intérieur de l'espèce humaine, nous contrôlons aussi les mutations. Les mutations génétiques sont en partie contrôlées. Je dirais que parfois ça peut donner des aspects cauchemardesques, c'est-à-dire que la médecine essaye de contrôler les mutations catastrophiques. Elle essaye même maintenant, ça risque d'être quelque chose pour votre maturité, pas forcément pour mes vieux jours, mais pour vous, ça, c'est un risque. Elle risque même d'essayer de contrôler a priori les mutations génétiques malignes, par exemple quand on parle de dépistage génétique des prédispositions au cancer, on voit se profiler cela, mais il y a une sorte de volonté de contrôle des mutations par la médecine, par l'avortement thérapeutique, dans le cas d'embryons qui sont très sévèrement handicapés, hein, puisqu'on sait diagnostiquer les lourds handicaps comme par exemple le mongolisme, par exemple, la trisomie 21, eh bien, on procède à des avortements thérapeutiques. C'est une manière de contrôler, je dirais, les mutations en empêchant des mutations jugées extrêmement négatives de se propager. Ce qu'on appelle les politiques de santé, les politiques de dépistage, les politiques d'amélioration des conditions alimentaires, les politiques de prévention sanitaire. C'est aussi une manière de contrôler les mutations négatives. Alors, du coup, la diversité humaine reste une diversité intraspécifique à l'intérieur de l'espèce humaine. Alors, cette diversité, elle est à la fois très grande et en même temps, on aura sûrement l'occasion de parler un peu de racisme, puisque c'est la question qui se profile souvent la dernière. En même temps, c'est pas ce ne sont pas des différences fondamentales. C'est-à-dire que génétiquement, nous avons 30 000 gènes, 3 milliards de nucléotides, etc. C'est d'immenses. Un génome extraordinairement compliqué, avec du coup des différences entre les individus qui sont assez grandes, mais qui sont des différences à l'intérieur de l'espèce. Ce n'est pas des différences qui permettent d'identifier des races particulièrement différentes, particulièrement identifiables. Ce ne sont pas non plus les traits de différence. Si vous regardez l'exposition qui est là dehors, vous aurez beaucoup d'explications là-dessus. Les traits les plus apparents de différence ne sont pas ceux qui sont les plus importants. Une différence en matière de gènes prédisposant à une maladie, soit une maladie rare, soit une maladie très grave, les différents gènes sont plus importants que les différences de couleur de peau, les différences de couleur d'yeux, les différences d'implantation des cheveux. On a une sorte, je dirais, d'uniformité humaine dans l'équipement, avec une diversité qui est distribuée, je dirais, statistiquement entre les individus. Certains sont plus grands, d'autres sont plus petits, certains sont plus résistants, d'autres sont moins résistants, certains sont plus rapides, d'autres moins rapides, etc., etc. Tout ça, ça repose sur des différences, au bout du compte, qui sont des différences génétiques, mais l'ensemble, je dirais, de l'équipement du patrimoine génétique est très largement partagé par l'espèce humaine. En revanche, ce qui est très important, vous allez voir qui pose un problème, c'est la distribution un petit peu aléatoire, à la fois de certaines qualités et la distribution un petit peu aléatoire aussi de certains handicaps. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire que d'une certaine manière, nous naissons avec un patrimoine génétique que nous ont donné nos parents, mais en même temps, on dirait, c'est la donnée du destin. Nous avons à faire avec les données de départ, et nous avons à faire avec ces différences que nous n'avons pas forcément voulu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, le cas le plus étonnant qui soit passé, et qui est philosophiquement extrêmement à la fois profond, bouleversant et très gênant, c'était le cas de cet enfant né handicapé qui, par le biais de ses parents, hein, je peux bien le dire, qui par le biais de ses parents, a ensuite intenté une procédure contre les médecins, c'est l'affaire Perruche, la fameuse affaire Perruche, contre les médecins qui n'avaient pas diagnostiqué au moment de la grossesse la lourdeur du handicap. Alors, c'est une, quand je vous disais que c'est une situation extrêmement bouleversante, très très difficile à réfléchir, c'est que ce garçon disait ses parents, parce que c'était pas lui hein, qui faisait le procès, ce garçon disait au fond, je n'aurais pas voulu être né. Si les choses avaient été faites correctement au moment du diagnostic prénatal, le handicap était tellement lourd que j'aurais voulu ne pas être né. Vous voyez un petit peu, c'est la face concrète de ce que je vous disais. Nous naissons avec une donnée de départ dont nous n'avons pas, seulement, pas forcément voulu, mais qui est le lot de notre héritage génétique et de la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Je crois que beaucoup, tout le monde, à un moment ou à un autre, dans sa vie d'adolescent, a dit « Ah, si je pouvais être le fils de quelqu'un d'autre hein ?» Bonsoir, un moment ou l'autre, on pense à « Ah, si je pouvais être né dans une autre famille ». C'est un raisonnement qui est complètement absurde, parce que justement, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes né dans cette famille. Si vous êtes comme vous êtes, c'est parce que vous avez ce patrimoine génétique. Et en même temps, il y a toujours le fantasme qui correspond, à, si vous voulez, à cette situation de hasard. Il y a toujours le fantasme de « Et si les données de départ avaient pu être différentes ?» Si je n'avais pas été comme je suis, avec les chances, ou avec les chances, mais aussi avec les handicaps que je peux avoir. Parce qu'il faut bien voir qu'il faut compter non seulement les handicaps, mais aussi ce qu'on appelle les dons, les talents, les avantages, je ne sais pas comment dire. Toujours est-il que, pour en finir avec cette question de diversité humaine, l'existence d'une médecine s'adressant à tous montre à la fois qu'il y a une très grande uniformité de la nature humaine, mais en même temps, on sait bien que ce que fait cette médecine, c'est tenir compte, par exemple notamment au niveau de l'immunologie, de la signature identitaire de chaque patrimoine génétique. Chacun, au niveau des vaccinations, au niveau de la réaction aux infections, chacun a une identité immunologique. D'une certaine manière, c'est ce qui fait que ça marche sur nous et pas sur les autres, ou ça marche sur les autres avec une thérapie et pas sur nous. Mais en même temps, le patrimoine génétique humain est suffisamment large et stable pour qu'il y ait une médecine et que cette médecine, effectivement, elle nous soigne. Une chose que je vous signale dans ces débats-là, parce qu'il va y avoir des changements considérables dans les années qui viennent, c'est que bien sûr, nous avons un patrimoine de départ, un patrimoine génétique, et des données oui, qui font que nous sommes comme notre carte d'identité, notre génome, nos chromosomes, et en même temps, il y a tout ce qui nous arrive, dans la vie, tout ce qu'on appelle l'épigénèse. Il y a le génétique et il y a l'épigénétique. L'épigénétique, c'est-à-dire ce qui se rajoute au génétique. Mais là où je dis que les choses vont beaucoup changer, c'est que actuellement, d'énormes progrès de la recherche scientifique sont en train d'être réalisés. C'est loin d'être fini, hein, c'est tout, juste le début, qui nous permet de commencer à comprendre comment les conditions extérieures, les circonstances, la culture, l'éducation se réinjectent dans le génome. On commence à déchiffrer ça. Comment il se trouve que les hommes ont un patrimoine de départ, patrimoine génétique, et ensuite une histoire, des circonstances, un milieu, une éducation, une culture, etc. Mais l'effet de ces conditions extérieures se réinjecte d'une certaine manière dans la génétique, et c'est ce qu'on est en train de développer sous le nom de épigénétique. Il y a des progrès très importants au niveau de la recherche médicale dans l'épigénétique. C'est-à-dire que c'est pas seulement, contrairement à ce qu'on dit avant, c'est pas seulement la nature d'un côté et la culture. On commence à comprendre comment la culture elle se réinjecte dans la nature. Et comment, finalement, dans notre patrimoine, se réinjectent les circonstances, les expériences, ce qui nous arrive, ce que nous apprenons, les émotions que nous avons, etc. etc. Alors, dernière chose que je dirais sur la diversité humaine, c'est que la diversité humaine a des avantages. Elle a des avantages. Et ces avantages sont, je dirais, des possibilités de variation du patrimoine génétique donc qui peuvent rendre les individus diversement résistants aux circonstances, aux infections, aux situations rencontrées. Par exemple, j'ai indiqué, je ne sais pas si on vous a transmis, mais j'ai indiqué quelques lectures. Il y a un livre un peu difficile, plutôt pour le terminal, de Carmen Sforza sur la diversité humaine, qui s'appelle « Qui sommes-nous ?», dans lequel il cite à un moment le cas d'une maladie du sang rare en Sicile, qui était une maladie relativement handicapante, une maladie génétique relativement handicapante, mais dont on s'est rendu compte historiquement qu'elle était liée à une résistance supérieure à la malaria. Alors, vous voyez très bien que dans ce cas-là, par exemple, dans un cas comme celui-là, la diversité génétique, ce qui peut apparaître comme un handicap, une maladie du sang héréditaire assez lourde, peut avoir comme contrepartie une certaine résistance aux conditions du milieu. Il est bien évident que le jour où, par exemple, il y a eu un assainissement de la région, le jour où il n'y a plus de malaria, bien, à ce moment-là, reste le handicap pur et simple. La maladie ne comporte plus, en quelque sorte, son avantage. Et ça, c'était pour vous faire comprendre que dans cette distribution du patrimoine génétique, il y a des avantages aussi. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, l'espèce humaine ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et si nous étions rigoureusement identiques génétiquement, nous serions extraordinairement vulnérables à toutes sortes d'attaques. C'est-à-dire que nous réagirions tous de la même manière. Et il se trouve que la diversité génétique a cet avantage, c'est qu'il y a une distribution des chances et des risques, des avantages et des inconvénients. Et d'une certaine manière, ça, c'est la même chose pour les innovations, pour les inventions en matière d'intelligence. Je vais donner deux exemples rapidement. Premier exemple, dans les sociétés du passé. Les sociétés du passé, jusqu'au XVIIIe siècle, en gros, jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française. On était là des sociétés qui reposaient beaucoup sur la force physique et sur la résistance physique. Et donc, la chose qu'il ne fallait pas être dans ces sociétés-là, c'était être un handicapé. Handicapé, c'était un sujet de ridicule, c'était un souffre-douleur, c'était une bouche en proie à mourir, et c'était, en général, quelqu'un qui était condamné à une mort assez rapide. Soit on le gardait par compassion, soit on essayait de s'en débarrasser le plus vite possible. C'est-à-dire que c'était des sociétés où, dans les conditions de la survie de l'espèce, il fallait avoir une certaine résistance physique. Il est bien évident que, vous allez voir l'exemple que je vais prendre, que dans une société comme la nôtre, où la résistance physique a beaucoup moins d'importance. Elle a de l'importance, par exemple, surtout aux Jeux Olympiques, hein, dans les compétitions sportives, aujourd'hui. Mais c'est même pas dans le travail manuel que la résistance physique elle avance, puisque tout est mécanisé. Vous allez voir un chantier aujourd'hui, pratiquement tout est mécanisé. Ça fait beaucoup de bruit, ça casse les oreilles, etc., mais tout est mécanisé. Donc l'importance d'être gros, costaud, résistant est beaucoup moins importante et est beaucoup moins réelle que par le passé. Donc nous sommes dans des sociétés où le handicap, d'une certaine manière, peut être beaucoup plus facilement accueilli parce que nous sommes plus intéressés, par exemple, par l'intelligence, la capacité de réaction, la capacité de compréhension, de communication de quelqu'un qui est handicapé, qui occupe un emploi, par exemple, que par la force physique pure et simple. Et vous avez sûrement tous entendu parler du grand scientifique anglais Stephen Hawking, le brin d'histoire du temps, c'est quelqu'un qui, en termes de handicap, est totalement handicapé, puisqu'il a une sorte de paralysie complète, qu'il ne peut parler qu'avec un appareillage particulier qu'il connecte à un ordinateur. Mais son intelligence est quelque chose considérablement important pour la société. Donc là, c'est un cas où vous avez un handicap, mais ce handicap est contrebalancé, sa sortie d'un don qui est considéré comme absolument inestimable aussi. Hein, la preuve en est, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez été au courant des dernières aventures, parce qu'il commence à être âgé et il est de plus en plus loufoque, mais sa dernière lubie, c'est d'aller faire une promenade dans l'espace. Hein, il est en train de faire un entraînement quasiment dans un fauteuil de paralytique et faire un entraînement pour être envoyé en orbite pour faire l'expérience de l'espace. Hein. Bon, mais dans les sociétés du passé, quelqu'un aussi sévèrement handicapé et où la force physique était absolument décisive n'aurait pas eu sa place, mais c'est entre guillemets, alors que aujourd'hui, la diversité génétique au niveau par exemple, de son génie scientifique, je ne sais pas si ça a une base quelconque dans la génétique, mais en tout cas, il avait bien quelque chose de génial. Cette diversité, je dirais, non seulement compense, mais est extraordinairement importante pour la société. Donc, je dirais, la diversité, elle est source de risques et en même temps, elle est source d'invention, d'innovation, d'originalité. Un de mes amis, qui sait beaucoup plus de biologie que moi, qui est un très grand chercheur, Miroslav Radman, a dit un jour une phrase qui m'a beaucoup ému. Il a dit les handicapés dans une société, ils payent le prix statistique, ils payent le prix statistique de ceux qui ont des dons, de ceux qui ont des dons et qui sont en parfaite bonne santé. C'est-à-dire que la nature répartit en quelque sorte la diversité génétique au hasard, et puis il y en a qui tombent mal, mais pour que dans cette répartition au hasard, il y en a qui tombent bien, ben, il faut qu'il y en a qui tombent mal, et les handicapés, ils payent le prix des talents aussi. Et les talents doivent du coup payer les prix des handicapés. Alors, j'en viens maintenant au point plus philosophique. C'est comment les sociétés se débrouillent avec tout ça. C'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais aller assez vite, de manière à laisser du temps, pour les questions, et comment les sociétés se débrouillent. Parce que je définirais les sociétés, toutes les sociétés, la nôtre, les sociétés du passé, comme des manières de gérer la diversité humaine. Une société, c'est en quelque sorte une machine à gérer la diversité. C'est-à-dire à organiser la relation entre des gens différents. Organiser la relation entre les amis et les ennemis, ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur, mais à l'intérieur de la communauté, organiser la relation entre des gens différents. Ben, vous direz qui ? Prenons la différence, la première différence, organiser la relation entre les hommes et les femmes, la différence sexuelle. Une société organise toujours la différence sexuelle. Elle organise les règles du mariage, les modes de l'éducation, les modes de l'adoption. Elle organise les relations sexuelles. Une société, elle organise par exemple aussi les relations entre les tout jeunes et puis les adultes. Ça aussi, c'est une différence. Et ça, en plus, bien, c'est une différence par laquelle nous passons tous. Hein. Vous êtes jeune, moi je suis âgé, pour ne pas dire vieux. Y a un arrangement social de nos relations à travers le fait que quand vous allez vous mettre à travailler, vous allez payer par retraite au sujet du jour, hein, c'est une organisation de la relation sociale. Les cotisations de retraite, c'est une organisation de la différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne peuvent plus travailler, par exemple. Vous voyez, quand je dis une société organise des rapports différents. De la même manière, quand on dit que quand les poursuites en matière de relations sexuelles non consentis ou consentis avec des individus de moins de 15 ans, quand on fait la différence sur la gravité des actes, dans le cas de ce qu'on appelle pédophilie par exemple, c'est une organisation par la société de la différence entre l'adulte et l'enfant. Donc les sociétés sont des machines, je dis machines, des systèmes pour être un peu plus. En étant un peu plus abstrait, sont des machines à organiser les différences. Mais je dirais qu'il peut y avoir des modes d'organisation extraordinairement expéditifs. Expéditifs, c'est-à-dire que beaucoup de sociétés, par exemple, dans le passé et même encore aujourd'hui, organisent l'anéantissement des ennemis. Ça aussi, c'est une manière de gérer la diversité. Hein. Le nettoyage ethnique, quand vous décidez d'aller tuer tous les ennemis, hein, les femmes, les enfants, les vieillards et surtout les hommes en âge de se reproduire. Bon, le nettoyage ethnique, comme ça s'est passé par exemple dans les Balkans dans les années 1990, le nettoyage ethnique, c'est une manière expéditive, inhumaine, scandaleuse, tout ce que vous voulez, mais d'organiser le rapport à la diversité, tout simplement en la niant, en disant je détruis ce qui n'est pas comme moi. Donc vous avez eu des... il y a beaucoup de formes d'organisation de la relation à la diversité. Il peut y avoir l'anéantissement, la guerre. Il peut y avoir le confinement, mettre à part. Je donne des exemples. Le malade mental grave, qui est hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. Ou le criminel qui est incarcéré. C'est une manière d'organiser la relation à la différence. Le malade mental n'est pas comme nous, c'est le principe que l'on retient, n'est pas comme les gens normaux, entre guillemets, il y a des guillemets partout dans tout ça, et donc il va être confiné quelque part. Il va être mis à part, déplacé, en ségrégation. L'apartheid, c'était une manière de gérer dans l'Afrique du Sud, avant l'arrivée de Mandela au pouvoir, l'apartheid était une manière de gérer la relation entre des blancs qui étaient là depuis le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, et puis des populations noires autochtones qui avaient été marginalisées, mises à part, en ségrégation, dominées. La ségrégation, le confinement sont des modes de gestion de la diversité. Vous avez d'autres modes de gestion de la diversité qui sont les politiques d'assimilation. On peut décider que autrui, l'autre qui est différent, devra être comme nous. Comme nous, on l'assimile. Donc on va, c'est les politiques d'acculturation, d'assimilation, les politiques d'intégration. Quand on parle d'intégration aujourd'hui à l'identité nationale, eh bien, c'est une forme d'assimilation avec, je dirais, des degrés, certains étant acceptables, d'autres n'étant pas acceptables, mais encore une fois, c'est une manière de gérer la différence. Et puis, la différence et la diversité. Et puis, c'est par ça que j'avais commencé comme exemple, la plupart du temps, ce sont plutôt les règles du droit, les règles du fonctionnement social, qui organisent la différence. Par exemple, les règles du droit en matière de mariage, en matière de répartition des héritages, en matière de protection des handicaps, d'accès des handicapés à la vie quotidienne. Ce sont les règles du droit. On a mis beaucoup de temps avant de prendre des mesures sur l'intégration des handicapés dans la société française. Eh bien, c'est une manière d'organiser la relation à cette diversité, à cette altérité dont les handicapés sont des pauvres malheureux pas du tout responsables, mais comment organiser leur rapport avec les gens normaux, comment les faire société avec eux tout en tenant compte de leur diversité et de leur handicap. Donc je dirais qu'il y a derrière ces questions-là, il y a toute la question de la règle sociale. Quel type de règles sociales mettons en place pour gérer la diversité? Et alors, je vais conclure, parce que j'ai parlé déjà depuis assez longtemps, mais j'avais dit que je vous laisserai la parole. Je vais conclure sur les problèmes que politiques, et je dirais peut-être plus encore les problèmes moraux et éthiques, et que tout cela pose. C'est-à-dire qu'au fond, comme je l'ai dit, il y a énormément de différences entre les hommes. Énormément de différences, et en même temps, ce sont tous des hommes. Et si j'avais à résumer la problématique morale, éthique ou politique, je dirais, en écartant la guerre, la destruction ou l'assimilation de ça, je dirais que l'un des problèmes fondamentaux de la politique et de la morale, c'est quelles sont les différences qui doivent être respectées, quelles sont les différences qui doivent être aménagées, quelles sont les différences qui doivent être protégées, absolument. C'est les questions fondamentales. Alors là, elles sont extraordinairement difficiles. C'est-à-dire, quelles sont les différences et aussi quelles sont les différences qui doivent être refusées? Quelles sont les différences qui doivent être acceptées? Quelles sont celles qui doivent être protégées? Quelles sont celles qui doivent être refusées? Je prends juste des exemples pour finir parce que je crois que ça sera plus simple d'en parler en exemple et à travers les questions. Quelqu'un qui est raciste, viscéralement raciste, intellectuellement raciste, etc. Dans quelle mesure est-ce que on peut tolérer ça dans les sociétés démocratiques? Par exemple, est-ce qu'on a le droit d'accepter que des gens tiennent des propos racistes, juste, même s'ils n'ont pas de conduite raciste, même juste en termes de ce qu'on appelle liberté d'opinion? Que quelqu'un a le droit d'avoir certes. On admet qu'il faut respecter toutes les opinions. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des opinions qu'il faut interdire? Donc ça, c'est quelqu'un qui dirait « je suis ouvertement raciste, est-ce que c'est une différence que la société peut accepter ?» Problème dont on pourra probablement discuter. Différences qui doivent être reconnues et qui doivent être aménagées. Bah, par exemple, je pense très notamment du handicap, situation des handicaps. Parce que vous ne pouvez pas dire « je ne veux pas savoir, vous êtes handicapé ». Les gens sont bel et bien handicapés. Dans ma carrière, j'ai dirigé une école d'art, l'école de Beaux-Arts de Paris, et ma première préoccupation, quand j'étais arrivé en 1989, c'est que j'avais constaté qu'aucun atelier de l'école des Beaux-Arts n'était accessible aux handicapés. Aucun. Il y avait des escaliers partout, c'était impossible pour un handicapé de rentrer dans cette école. Bon, je ne pouvais pas dire aux gens, écoutez, on ne veut pas le savoir. Hein. Visiblement, c'était le point de vue de la République française depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas savoir qu'il y avait des handicapés, qu'il pouvait y avoir des handicapés qui avaient envie d'être artistes, par exemple. Hein. Bon, quand je dis que c'est une différence, il doit être reconnu, et en même temps, il doit être aménagé. Quand je dis aménagé, ça veut dire qu'elle est aménagée concrètement, en mettant des rampes, en mettant des lieux d'accès, en aménageant les postes de travail. C'est ça que j'appelle aménager une différence. On ne consiste pas à dire « tu n'es pas handicapé, on ne veut pas le savoir », ou ça ne consiste pas seulement à dire ben, « il va y avoir plus que des endroits pour les handicapés ». Il faut gérer cette différence, reconnaître la différence et l'aménager. Quelles sont les différences qui doivent être, par exemple, protégées absolument? Il y a eu beaucoup de philosophes du 19e siècle qui disaient « le non-conformisme doit être protégé ». Les gens un peu loufoques, les gens qui ont des comportements vestimentaires absolus, ou des comportements sexuels, à l'époque c'était en général l'homosexualité, ou des comportements sexuels déviants, il faut absolument protéger ça. À une époque, c'était très conformiste. Pourquoi ? Parce qu'il est dans les sociétés, nos sociétés qui sont de plus en plus positivistes et de plus en plus industrielles, elles seront de plus en plus conformistes. Et il faut absolument qu'on protège les gens différents des autres. Hein, parce que ils avaient un point de vue très utilitariste, non, parce qu'ils sont facteurs d'innovation. Ils doivent absolument défendre l'originalité, défendre le non-conformisme, défendre la dissidence, etc. Ça, c'est, on peut aussi s'interroger sur quelles sont les différences qui doivent être absolument protégées, même si, à première vue, on ne sait pas du tout à quoi elles peuvent s'appeler. Quelles sont celles qui doivent être. Et puis, ensuite, comment est-ce que. Et je terminerai, ça sera vraiment ma dernière phrase, comment est-ce qu'on concilie tout ça avec les principes de l'égalité? Parce que quand on reconnaît la différence, d'une certaine manière, on crée des traitements inégaux. Enfin, je donne un exemple, un étudiant malvoyant, aujourd'hui, qui passe ses examens à l'université, je ne sais pas ce qu'il en est pour le baccalauréat, mais un étudiant malvoyant qui passe ses examens à l'université, il a droit au double de temps. Pour faire son examen. C'est réglementaire. Moi, j'en ai eu un les années précédentes. La durée de l'examen était. Il avait un taux, en plus, ça vient de l'administration. Il n'était pas totalement malvoyant, mais il avait 50% de temps en plus. Il est bien évident qu'on crée pour lui, d'une certaine manière, quelque chose. On rompt l'égalité. Parce qu'il a beau être malvoyant, il est aussi intelligent que ses petits camarades. Il fonctionne très vite. Donc, du CD, il a plus de temps pour faire son examen. Donc, comment est-ce qu'on peut concilier, je dirais, cette gestion des différences et de la diversité humaine avec l'égalité? Et derrière tout ça, la question qu'il y a, c'est la question, est-ce qu'on a le droit, par exemple, de faire de la discrimination positive? Comment on peut s'opposer à la discrimination négative? Comment est-ce qu'on peut aménager l'égalité pour tenir compte des différences? Alors là, c'est un énorme problème. Je pense qu'on va probablement en parler, mais je m'arrête là maintenant.
Je crois qu'on peut remercier Michaud pour sa conférence. Il nous reste 15 heures. Ça va aller, on va commencer par les questions des élèves. Donc vous avez Adéla, Bakali et Lucie qui sont là dans les travées avec le micro qui. J'attends vos questions. Alors, je sais que Karina a préparé des choses. Il y a beaucoup de pistes, hein, quand même, le racisme, le handicap.
premier pour se jeter à l'eau. Hein. C'est la première question que j'ai.
Il faut reconnaître qu'il faut du courage pour poser une bonne question dans un contexte pareil. Allez-y. Il n'y a pas de question qui est. Il n'y a que les réponses qui risquent de l'être de temps en temps.
S'ils croient, c'est des différences qui sont moins importantes et d'autres beaucoup plus importantes.
Alors, écoutez, je dirais que c'est. Non, mais là, c'est parce que j'essaie de réfléchir avant de répondre. C'est vrai qu'en un certain sens, la question que vous posez est très embarrassante parce que je trouve qu'elle est vraiment, c'est pas pour vous faire plaisir, mais elle est vraiment bien philosophiquement parce qu'elle est très embarrassante. Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison pour laquelle une différence serait un fond en soi important. Donc il faut trouver les critères en fonction desquels une différence est importante. Alors, par exemple, je vous donnerai un critère possible qui serait dans le cas de la biologie, une différence peut être importante si elle est un handicap vital pour la survie. Là, vous avez un critère. Vous voyez ? Mais encore faut-il qu'on pose ce critère comme l'essentiel étant, je dirais, d'être adapté à la survie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en soi, vous avez raison, il n'y a pas de différence qui est fondamentalement. Imaginons être malvoyant, par exemple, être malvoyant dans une société comme la nôtre qui fonctionne sur le visuel fondamentalement, c'est un handicap très lourd. Et c'est un handicap même de survie. Alors, il y a des situations où c'est un handicap de survie pure et simple. Mais vous pouvez avoir des situations où le handicap d'être malvoyant va devenir, je disais l'autre jour, pas pour autant que la personne a une vie agréable, mais je lisais l'autre jour un article, je ne sais plus dans quel procédant de supplément du monde, sur l'emploi par, je crois, une police néerlandaise de malvoyants dans certaines expertises sonores en police scientifique. Là, le fait d'avoir des gens qui fonctionnent fondamentalement sur le son devient un avantage. Alors, je ne pense pas que ça rende la vie de ces gens beaucoup plus heureuse. Et vous voyez comment, en variant le critère, on fait varier l'importance ou non-importance d'une différence. Le problème, c'est que si on raisonne vraiment comme ça, on va finir par dire que les différences sont très relatives. Et ça me gênerait.
Oui, donc ce serait. Vous avez parlé de différences, mais pour qu'il y ait des différences, il faut forcément qu'il y ait une part de normalité. Alors je sais qu'il y a une échelle sur laquelle la société se base pour définir cette normalité. J'aimerais savoir sur quel critère cette échelle se base.
Alors, pour les définitions de la normalité, vous savez, ce qui est très déprimant, mais en même temps très encourageant, c'est que la normalité est toujours définie statistiquement. La normalité, c'est ce qui correspond en gros à la distribution moyenne des cas. Par exemple, le quotient intellectuel, le fameux QI, c'est pas du tout, le quotient intellectuel n'est pas au départ du tout une mesure de l'intelligence absolue. Le QI, quand il a été inventé et mis au point par des pédagogues qui s'occupaient des petites classes, il se définissait par les tâches que la moyenne d'une classe donnée, une classe scolaire, pouvait réaliser. Et du coup, l'âge mental était défini par rapport à l'âge de la moyenne des gens. Ceux qui n'étaient pas à la hauteur de l'âge était, avaient un âge mental de moins un an, moins deux ans. Ceux qui étaient en avance, dans les performances, avaient un âge mental supérieur. Mais la définition au départ, c'est une histoire très intéressante, c'est un jeu fait de la psycho. Je n'ai pas tous les détails en tête, là, parce que je ne peux pas tout avoir en tête, hein. Mais l'histoire du QI est très intéressante, parce qu'au début, c'est strictement une définition statistique par les performances que la moyenne d'une classe donnée peut faire. Donc ça détermine un âge mental et une performance d'intelligence moyenne. Et la plupart des définitions de la normalité sont des définitions par ces moyennes statistiques. Pareil en médecine, pareil, si un cas est dans la moyenne, ça devient normal d'une certaine manière. Donc, à la fois, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça revient à la question de votre camarade avant, ça veut dire qu'il n'y a pas de. C'est plutôt des procédures de définition de la normalité, des procédures de définition de la différence qui entrent en jeu plutôt que des absolus. Il n'y a pas un absolu d'être normal, il n'y a pas un absolu, c'est un absolu statique. Alors ça veut dire que si les choses viennent à changer, ce qui est normal va aussi changer. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez les âges de la vie, les gens sont très mécontents quand ils meurent à 85 ans. Parce qu'ils trouvent que c'est pas normal. Il y a 40 ans, mourir à 85 ans, c'était mourir très vieux.
Est-ce que le fait que une différence soit voulue comme il y a des différences qui sont voulues et des différences qui sont subies, par exemple les différences voulues, les non-conformismes, l'originalité et les différences qui sont subies, les handicaps, est-ce que ça peut rentrer en compte dans le fait qu'on les accepte mieux ou pas, qu'on les protège ou qu'on aménage parce que... Enfin, je sais pas.
Non, mais... là, c'est une question qui est compliquée parce que ça dépend justement de la norme que fixe la société. Il est évident que... Je reprends l'exemple du handicap. Le handicap physique, le handicap physique lourd, dans une société où il n'y a pas de médecine et où chacun... où il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de sécurité sociale, où chacun doit compter d'une certaine manière sur ses propres forces. Bon, il peut y avoir des solidarités familiales, mais chacun est vraiment avec ses propres forces. À ce moment-là, je dirais le handicap est à la fois quelque chose de normal, mais en même temps, je veux dire, l'acceptation est très faible. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Hein. Mais on ne peut pas s'attarder auprès de cette personne qui n'a pas eu de chance, parce que sinon, ça met en cause tout le groupe. Vous voyez ? On ne peut pas... en revanche, si vous prenez une société qui valorise l'originalité, l'innovation, comme la nôtre, hein, la recherche voulue des différences, elle sera forcément acceptée, valorisée. Alors si vous êtes une société, comme c'était le cas par exemple au XIXe siècle, avec un fort accent sur le conformisme, eh bien, votre demande d'originalité ne va pas être acceptée facilement. Donc on est au croisement, c'est beaucoup de normes. Les normes de la survie, les normes du groupe social, des normes symboliques, ça peut être des normes religieuses aussi. Hein, c'est-à-dire, un exemple, c'est un peu lié à la question de faire révéler que vous êtes végétarienne, mais si vous prenez par exemple le fait d'être végétarien dans notre société, être végétarien, c'est une différence qui est acceptée. Un peu embarrassante quelquefois pour les maîtresses de maison, pour les restaurateurs, etc. Mais c'est pas une différence qui touche très fortement au sacré social. En revanche, en Inde, c'est pas être végétarien qui posera problème. C'est par exemple d'être carnivore. Et là, les implications d'être carnivore, c'est un refus total de la part des groupes végétariens qui sont les groupes dominants. Ce qui veut dire que là, cette différence, elle est vraiment très anormale d'être carnivore. Ce qui fait que, par exemple, moi je dis souvent par plaisanterie, puisque le tourisme se développe énormément en ce moment, y compris le tourisme en provenance maintenant des pays dits émergents, qui sont d'énormes pays, c'est que si vous voulez monter des business dans l'avenir, il faudra faire des restaurants spéciaux pour les touristes indiens. Parce qu'un touriste indien, il ne va pas aller manger un plat végétarien à côté d'un carnivore. Ça le dégoûte. Hein, c'est une différence religieuse très 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 forte. C'est vraiment comme si nous allions dans un restaurant à côté de quelqu'un qui mangerait du chien, des vers de terre, des excréments. Quoi. C'est très, réellement dégoûtant. Hein. Donc vous voyez, il faut faire intervenir la norme. La norme, c'est le normal, mais il y a certaines normes qui ont des bases très 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 sacrées, métaphysiques, religieuses, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus conventionnelles.
Oui, alors vous avez parlé de. Ok, bon, vous avez parlé de ces différences. Et alors moi, je voulais savoir, parce que c'est vrai que vous avez dit que la société était pour les différences aujourd'hui. Seulement, moi, je trouve que souvent on parle de société de consommation de masse surtout. Donc je ne sais pas vraiment si on aborde, on rejette les différences ou plutôt si on les accepte. Je ne sais pas si plutôt on les accepterait plutôt que de les refuser, les différences.
Bah, moi, je vous répondrais, c'est les deux. C'est bien, à la limite, le reproche fondamental que je ferais, c'est que c'est les deux. La preuve en est, c'est que, c'est un terme que vous connaissez tous très bien, c'est qu'on vous demande de tout customiser. Hein? C'est-à-dire qu'on vous personnalise toutes les mêmes choses. Hein? C'est ça, la société de consommation aujourd'hui. C'est la customisation d'un stock de choses qui sont identiques. Hein? Mais faites votre propre profil, faites votre propre. Alors en plus, avec tous les moteurs de recherche, avec tous les systèmes d'analyse en direct de vos choix, etc., on va vous indiquer juste ce qui vous convient à vous, hein? Comme à des millions d'autres. Hein? Et donc, si vous voulez, je vous dis ça parce que pour votre réflexion, je crois qu'il faut aborder aujourd'hui la société de consommation de manière bien plus compliquée, complexe qu'avant. C'est-à-dire, on ne donne pas aux gens tous la même chose, on leur fait croire, on les aide à faire croire, ils sont les premiers à leur croire d'ailleurs, qu'ils ont un truc spécial pour eux. On leur customise tout, soyez tous différents, mais achetez tous un produit standard. Mais on vous le customisera, parce qu'on arrive à vous le customiser, vous comprenez ? C'est là qu'il faut. Et c'est vrai, je disais pour les sociétés, à la fois on valorise la différence, et en même temps, tout le monde est très conformiste, on a les deux.
Ça se voit dans le champ d'alimentation, par exemple, on a l'impression d'avoir accès à tout, à du mexicain, à l'indien, mais c'est des produits de masse, et il y a des milliers à manger la même chose, c'est pareil en alimentation. C'est la fin de l'échelle. J'ai encore une autre question. Finalement, peut-on dire que tout le monde est différent de tout le monde ou pas?
Alors, dans le principe, oui, tout le monde est différent de tout le monde, tout simplement parce que vous avez le patrimoine de vos parents et vous l'avez eu à un moment donné, point à la vie. C'est-à-dire que, ne serait-ce que, tout simplement, à travers votre carte d'identité génétique d'un côté, et d'autre part, parce que, en fait, entre deux vrais jumeaux, il y a quelques dizaines de différences génétiques. Entre deux individus, il y en a plusieurs centaines de milliers de légères différences génétiques. Ils ont les mêmes gènes, mais avec des expressions assez différentes. Donc, d'une certaine manière, vous êtes tous uniques, ça c'est sûr. Tout le monde est intrinsèquement, tout le monde est unique. Tout simplement parce que ça a commencé à un certain moment avec un certain patrimoine. Ça se reflète dans une chose, c'est dans deux choses, c'est la carte d'identité génétique qu'un jour ou l'autre nous l'aurons tous, et deuxièmement, votre numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale indique absolument votre unicité. Le premier chiffre, c'est votre sexe, fille ou garçon, ensuite l'année de naissance, ensuite le mois de naissance, ensuite, il n'y a pas le jour, mais il y a le numéro sur le registre d'état civil, et comme vous ne pouvez pas avoir le même numéro qu'un autre, donc vous êtes strictement unique. Vous avez un numéro unique. Maintenant, après, il y a la manière dont ces différences se recoupent avec celles des autres.
Oui, vous nous avez dit que depuis le début de l'évolution humaine, justement, que maintenant l'espèce humaine n'évoluait plus, que c'était juste à l'intérieur en fait de l'espèce. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'avec toutes les évolutions de la science, on va pas arriver vers un monde où en fait tout le monde sera vraiment pareil, même à l'intérieur de l'espèce humaine?
Non, d'une part, parce que là, il faut aller voir ça en sciences de la vie et de la Terre, mais la complexité du génome et la complexité des mécanismes de reproduction du génome fait qu'il y aura toujours des différences entre vous. Vous aurez non seulement tel trait physique, mais aussi telle maladie, telle faiblesse physique, telle force physique et telle prédisposition de maladie. Donc,